L'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, et ses partenaires ne veulent pas que les entreprises qui développent des intelligences artificielles, IA, des intelligences artificielles génératives, bénéficient d'une exception à la loi sur le droit d'auteur et rappellent que leurs membres souffrent encore de l'exception accordée au domaine de l'éducation en 2012. Plusieurs questions dans cette amorce tirée du Soleil, le journal Le Soleil. C'est un texte de Valérie Marcoux. Et pour démêler tout ça, j'accueille avec grand plaisir Maître Stéphanie Hainaut, directrice des affaires juridiques de l'ANEL, qui est en studio. Bonjour, Madame Hainaut.
Bonjour, Hélène. Vous pouvez m'appeler Stéphanie.
Alors, très bien. Je vous appellerai Stéphanie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Stéphanie, dites-nous ce qu'est la mission de l'ANEL.
L'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres, regroupe la très grande majorité des éditeurs de langue française au Québec et au Canada. Et il faut comprendre là que, par exemple, sur le marché québécois, entre 100 et 200 maisons d'édition sont responsables de la publication annuellement d'environ 6 000 titres. Et leur effort de commercialisation, de publication d'auteurs d'ici a beaucoup de succès. Là, je vous dirais que les parts de marché de l'édition francophone québécoise au Québec est d'environ 50 %, malgré que 900 éditeurs étrangers soient diffusés sur notre territoire.
Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Bon an, mal an, je pense que ce sont des ouais. chiffres qui se maintiennent. La difficulté, toutefois, c'est que les coûts d'impression, la concurrence pour le temps de presse des imprimeurs et la stagnation des subventions et l'inflation rend la difficulté économique des éditeurs difficile.
Mais vous avez eu des bonnes nouvelles, là, c'est récemment. Concernant les coûts, je ne sais pas, il me semble qu'il y a un montant qui est accordé.
Bon, en fait, on attend de bonnes nouvelles. Le milieu audiovisuel a eu une bonne nouvelle hier de la ministre Saint-Onge, mais le milieu de l'édition canadien attend aussi des bonnes nouvelles de la ministre Saint-Onge parce que, malheureusement, le soutien aux livres n'a pas été indexé depuis 2001, contrairement aux autres industries culturelles.
Ah,
et
oui.
Compte tenu que le livre est si fondamental pour la diversité, l'expression de notre culture, il ne faudrait pas que le gouvernement néglige cet aspect important.
Bon, on espère que les éditeurs se fassent entendre.
On l'espère aussi, les auteurs aussi. Je vous dirais que l'Union nationale des écrivains, notre société de gestion collective, Copybec, ainsi que l'ensemble du milieu canadien, là, militent pour un meilleur soutien aux livres et une amélioration de la loi sur le droit d'auteur aussi.
Alors, d'abord, on parle d'intelligence artificielle générative aujourd'hui.
Oui.
C'est dans l'actualité depuis quelques temps. D'abord, c'est quoi? Des IA génératives, Stéphanie.
C'est une nouvelle technologie qui permet de questionner un service et d'obtenir des réponses. C'est utile dans différents domaines. Donc, essentiellement, ces systèmes-là sont capables d'être alimentés de textes, d'images et d'en générer à leur tour. C'est une technologie qui est bien accueillie, mais qui fait controverse du côté des créateurs mondialement. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, les auteurs et les éditeurs poursuivent des grosses entreprises technologiques pour les accusant d'avoir pillé leur contenu en contravention du droit d'auteur. Oui, parce qu'il est possible d'utiliser des textes, mais pour cela, il faut le faire légalement en obtenant des licences auprès des titulaires de droit. Et d'ailleurs, une des personnes clés de OpenIA a démissionné parce qu'il dénonçait que la compagnie ne respectait pas les ayants droit.
Mmh.
Et il tente de créer une certification d'intelligence artificielle respectueuse des droits afin que le public puisse s'assurer que lorsqu'il utilise l'intelligence artificielle, ce soit fait de façon légitime face aux créateurs. Et il y a un nouveau développement de licence aussi pour alimenter l'intelligence artificielle générative. Mais si le gouvernement canadien met une autre exception, par exemple, permettant la fouille de textes et de données à des compagnies technologiques californiennes, ben ça serait extrêmement déplorable pour le milieu du livre canadien qui doit pouvoir voir son marché des licences se développer. Parce qu'évidemment, Si les compagnies n'ont pas à demander l'autorisation en vertu de la loi, ils ne le feront pas et ça priverait de revenus les auteurs et les éditeurs. Et pire, il faut que les auteurs et les éditeurs puissent garder la faculté de refuser qu'une œuvre alimente une intelligence artificielle. Ouais. Vous comprendrez évidemment qu'un auteur comme Michel Tremblay ou Louise Tremblay-Décembre ou Kim Thuy, peu importe, on ne veut pas que la machine puisse inventer la prochaine suite du livre. Là, ça contreviendrait à leur droit moral.
Donc, ça s'en irait dans cette direction-là si on...
C'est possible.
On
intelligence
pas la
artificielle, on peut demander à une intelligence artificielle quelle serait l'histoire du cinquième titre, par exemple. Ouais. Là, mais pour répondre à ça, il faut que la machine ait pu
s'entraîner
avec les titres, mais ça ne peut pas se faire légalement au Canada. Et c'est très important pour les auteurs et les éditeurs que le gouvernement ne facilite pas l'utilisation du contenu mm-hmm. par ces compagnies-là. Il faut au contraire que la loi sur le droit d'auteur ne soit pas modifiée à cet égard-là. Il faut qu'elle soit renforcée en faveur des auteurs et des créateurs.
Mais le gouvernement est en train de prendre cette voie inquiétante-là?
En fait, on est inquiet dans la mesure... En fait, tout d'abord, le gouvernement canadien mène une consultation actuellement. Donc, de octobre à la mi-janvier, il a été possible pour l'ensemble des Canadiens de faire valoir leurs préoccupations et de répondre à certaines questions du gouvernement sur l'intelligence artificielle et le droit d'auteur. Le milieu culturel, pas seulement que les éditeurs sont très inquiets parce que malheureusement, la tendance du Canada dans les 10-15 dernières années n'a pas été d'améliorer la capacité de ses auteurs à contrôler l'exploitation de leurs œuvres. Ça a plutôt été de mettre des exceptions pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le contenu sans autorisation.
Pourquoi?
En 2012, possiblement pour répondre à des impératifs industriels autres que celles des industries créatives. En 2012, le gouvernement Harper avait inclus une série d'exceptions en toute vapeur. Et malheureusement, dans le milieu du livre, les exceptions qui ont été promulguées dans le secteur de l'éducation ont fait en sorte que le milieu des auteurs et des éditeurs ont perdu sur 10 ans plus de 200 millions.
Ah, oui.
Je vous explique. Au fond... Traditionnellement, les universités ont toujours demandé des licences à des sociétés de gestion collective comme Copybeck ou Access Copyright.
Des licences, c'est des permis?
C'est des permis. Donc, c'est une licence, c'est une autorisation moyennant une contribution de pouvoir faire quelque chose avec une œuvre. Mm-hmm. Et dans le cas des universités, c'est des reproductions. Et l'ensemble des législations dans le monde ont été adaptées depuis que les photocopies sont universelles. Là, dans les années 60-70, ils ont créé des systèmes pour permettre aux auteurs et aux éditeurs de gérer collectivement leurs droits et d'octroyer des autorisations moyennant rémunération pour les reproductions. Alors, il faut que, plutôt que de continuer à renforcer cette capacité du milieu à monétiser le contenu des publications à succès qu'ils produisent, il a fait donc des exceptions. Et il faut faire attention parce qu'au Québec, les auteurs québécois souffrent moins de ces exceptions parce que les universités québécoises, que ce soit l'Université de Montréal, McGill, etc., continuent de demander des licences à Copybeck et à honorer l'utilisation du contenu par des revenus légitimes envers les auteurs.
Ils le font même s'ils ne sont pas obligés?
Ils sont obligés. C'est juste que dans le Canada anglais, on a interprété des exceptions de façon beaucoup trop laxiste. Ça a donné lieu à une saga judiciaire jusqu'à la Cour suprême. Et actuellement, malgré ce débat à la Cour suprême, la question n'est pas réglée. Et dans le fond, ce que le milieu du livre canadien demande au gouvernement canadien, c'est de corriger la loi pour permettre de nouveau à l'industrie du livre d'aller chercher ses revenus légitimes dans plusieurs institutions d'enseignement canadiennes qui ne respectent plus leur obligation de demander des licences comme ça se fait ailleurs dans le monde.
Vous avez parlé, Stéphanie, de IA en français. Quelles sont les autres compagnies? Quelles sont les compagnies qui développent justement des IA génératives? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Beaucoup de compagnies développent l'IA générative. Je pense que toutes les grandes entreprises technologiques, de Apple à Microsoft, développent des services d'intelligence artificielle, que ce soit pour les entreprises ou les individus. Et au fond, je pense que les utilisateurs aussi doivent être prudents lorsqu'ils utilisent ces technologies-là, justement pour ne pas non plus, à leur tour, enfreindre du droit d'auteur. Mm-hmm. Ça peut être séduisant de se dire, oh, je vais demander à l'intelligence artificielle de m'écrire un livre, là. Mais si ton livre est le plagiat d'un autre livre qui est sur le marché, ça se peut que si tu le commercialises, t'as des problèmes,
soit dans
surtout
le trouble,
que
ouais.
Généralement, en fait, c'est toujours le cas, quand on veut publier son œuvre, il faut qu'on garantisse à ses partenaires que ça n'enfreint pas les droits. Donc, voilà, c'est une technologie nouvelle qui s'universalise beaucoup,
ouais.
Mais il faut faire attention. Il faut aussi que les créateurs soient prudents quand ils décident de mettre du contenu sur ces plateformes pour s'assurer que leur contenu ne bénéficie pas à l'entraînement de la machine et puisse se retrouver dans les résultats d'un autre utilisateur.
Ouais. L'entraînement de la machine, hein,
ouais.
C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est la machine qui s'entraîne à devenir pas humaine, mais...
Non, c'est pas humain. C'est des codes, au fond, qui sont entraînés pour donner une réponse. D'ailleurs, on dit que les intelligences artificielles hallucinent aussi parce que elles vont nécessairement trouver une réponse, même si c'est pas la bonne réponse.
Oui.
Et il y a d'ailleurs un avocat aux États-Unis qui s'est fait prendre parce qu'il a cité à la cour une jurisprudence qui n'existait pas parce qu'une intelligence artificielle lui avait donné une réponse sur mesure pour sa cause.
Il s'était fié genre sur ChatGPT.
C'est ça, mais il faut pas se fier parce que ce sont des systèmes qui donnent des réponses et ça ne remplace pas. Ben, faut vérifier.
Oui, ça remplace pas les humains.
Ouais, ouais.
Mais l'intelligence artificielle est pas ou peu réglementée. Tout le monde peut les utiliser, là, les intelligences artificielles.
Bien, on peut s'abonner à des services d'intelligence artificielle et je pense que dans une certaine mesure, l'intelligence artificielle fait déjà partie de nos vies. Mais en ce qui a trait à l'intelligence artificielle générative, donc mm-hmm. qui permet de générer, j'appellerais pas ça des œuvres, là, parce que ce qu'une machine génère, on appelle ça un produit. Ça, c'est relativement nouveau et ça tend à se démocratiser. Oui, il y a des services qui sont offerts gratuitement, mais moi, j'invite les gens à s'assurer de prendre bien connaissance des conditions de licence avant de les utiliser.
Oui.
Ouais.
Et comment on fait ça?
On lit avant de... Tu sais, là, quand on reçoit, là, cliquer, accepter les conditions pour avoir besoin du service,
oui.
là, on n'aime pas trop ça, faire ça.
Non.
On se dit que c'est géré par la protection du consommateur, mais non, il faut faire attention, il faut les lire. Faut lire à quoi on adhère lorsqu'on
C'est
on utilise un service comme
aussi.
Ça. Oui.
C'est pour le respect aussi de l'auteur du document. Mais comment vous pensez qu'il faudrait réglementer l'intelligence artificielle en matière de droit d'auteur?
Du côté des industries créatives, il y a un consensus qui se dégage vers une meilleure responsabilisation des services d'intelligence artificielle, notamment en les obligeant à publier les œuvres à l'origine de leur système. Et de manière aussi à ce que si elles utilisent des œuvres protégées, que les utilisateurs puissent le savoir pour pouvoir intenter des recours s'ils doivent le faire ou pour pouvoir négocier des licences pour que ces systèmes se responsabilisent envers les créateurs.
Avez-vous confiance que ça se passe?
Bien, écoutez, avons-nous confiance? C'est une bien grande question. Comme l'indiquait non seulement l'Association nationale des éditeurs de livres, mais aussi... l'Union des écrivains et écrivaines et la Coalition pour la diversité des expressions culturelles. On attend des modifications à la loi sur le droit d'auteur qui sont urgentes, qui sont prioritaires. D'ailleurs, parmi les 6 priorités de l'ensemble du milieu culturel, la première est d'adapter la loi sur le droit d'auteur pour continuer aux auteurs à monétiser leur contenu utilisé dans les universités. Malgré tous les rapports, malgré la mobilisation du milieu, ça ne s'est pas fait encore et on est inquiet que ça ne soit pas fait encore et on a les solutions, on a des solutions simples à proposer au gouvernement pour améliorer les choses et on travaille fort pour être entendu en ce sens. J'aimerais vous dire que j'ai de l'espoir. Je vous dirais que j'ai beaucoup de conviction pour continuer à travailler dans l'intérêt collectif de nos créateurs et de notre population qui a besoin d'industrie culturelle forte.
Oui, parce que ben, tant mieux si vous avez de l'espoir et nous aussi, on espère, mais la tricherie, le plagiat, ça a toujours existé.
Ça a toujours existé, mais les législations se sont toujours adaptées pour permettre aux créateurs de continuer à pouvoir exploiter leurs œuvres.
Oui, vivre
de leur
plume.
Canada a cette obligation-là, notamment en vertu de la Convention de Berne, qui oblige que les adaptations à la loi sur le droit d'auteur soient pour permettre aux créateurs de continuer à pouvoir contrôler l'exploitation des œuvres. Malheureusement, en 2012, on a eu toute une mauvaise surprise dans ce que le gouvernement a fait dans la loi sur le droit d'auteur, et on ose croire qu'il va s'améliorer plutôt que d'aller dans la mauvaise voie.
On l'espère aussi. Stéphanie, en terminant, parlez-nous un peu des actions des éditeurs concernant les formats accessibles.
Ah ben oui, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à l'Association nationale des éditeurs de livres. On a d'ailleurs une table de concertation pour faciliter la disponibilité des livres dans tous les formats pour tous les publics. Et d'ailleurs, récemment, Mme Karine Vachon, la directrice générale de notre association, faisait des revendications auprès du crédit d'impôt provincial pour permettre que cette mesure-là permette davantage de conversion d'œuvres en format accessible, mm-hmm. en audiolivre, par exemple. Un audiolivre, ça coûte assez cher à produire. Malheureusement, il n'y a pas de revenus équivalents pour un milieu qui est déjà précaire, mais on pense qu'en améliorant le crédit d'impôt provincial, en rendant admissibles les dépenses pour permettre ces formats-là, ça améliorerait les choses. C'est un des éléments qu'on suggère. Mais ce que je comprends, c'est que de plus en plus, les nouveautés sont commercialisées en format accessible et que c'est pour les livres de fond, là, les grands succès qui ne sont pas des nouveautés, mais qui demeurent des livres incontournables. Pour adapter ces formats-là, c'est moins facile. Mais on essaie de travailler avec les instances publiques pour qu'il y ait toujours plus de mesures pour favoriser la démocratisation de la lecture pour tous les publics.
Alors, beaucoup de pain sur votre planche.
Oui, puis je tiens à vous remercier aussi pour votre émission et le riche contenu que vous rendez disponible à votre auditoire. Bravo pour votre travail et à celui de toute l'équipe.
Merci beaucoup. Maître Stéphanie Hinault, directrice des affaires juridiques de l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, qui venait nous parler en studio de l'IA générative et le droit d'auteur. Merci Stéphanie.
Merci.